Pop Mine, les droits humains, une zone à défendre du 19 au 21 mars au 106 à Rouen. Un rendez-vous d'envergure européenne organisé par l'UFISC, collectif d'acteurs de la culture, sur des thématiques telles que les droits culturels, militance et résistance, territoire, relations au travail ou liberté individuelle et collective. Les radios normandes de découverte musicale, HDR, West Track, Radio Principe Actif, Radio 666, Radio Campus Rouen, Radio Nomax, Radio Phoenix et Radio Pulse, en partenariat avec la Ferrarock et Radio Campus France, s'emparent de l'événement pour faire entendre la voix des différents intervenants sur les sujets abordés lors de ces trois jours de rencontres et de débats. Pop Mine. Et oui, bonsoir à tous. Deuxième journée Pop Mine ici au 106, la salle rouennaise de concert avec cette thématique au-dessus des têtes des participants, les droits humains fondamentaux, une zone à défendre, une journée riche en débats, palabres et conférences. Ici, nous avons évoqué aujourd'hui, par exemple, la responsabilité citoyenne et militante des acteurs culturels, l'indépendance des médias en Europe et ses espaces de résistance, le rétrécissement des libertés dans l'espace public, l'organisation collective du travail en appui aux droits des personnes, de co-construction également, de coopération, de droits d'auteur sur Internet, d'économie sociale et solidaire, d'égalité femmes-hommes, de droits culturels ou de liberté de circulation des artistes en Europe. Et j'en passe évidemment. Il a fallu faire des choix pour cette émission d'une heure. Nous les avons fait, ces choix-là, avec les radios normandes de découverte musicale qui se mobilisent durant ces trois jours de cogitation intense pour relayer quelques idées dans l'air de ce Pop Mine. Les radios en partenariat avec le réseau Ferrarock et le réseau Campus France, on les salue. Et puis les radios donc sont HDR, Radio Campus Rouen, la radio du 106 à Rouen, Westrack au Havre, Principe Actif à Évreux, 666 et Phoenix à Caen et Radio Pulse à Alençon qui se charge donc de vous rapporter tout ça durant cette heure qui vient. Et puis nous allons tout de suite donner la parole à Phoenix, Radio Campus à Caen, pour parler d'un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment dans la sphère des filières musique. C'est la création du CNM, le Centre National de la Musique. On va en parler tout de suite.
Pop Mind, les droits humains, une zone à défendre, du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.
Et nous sommes avec Guillaume de Radio Phoenix à Caen. Vous êtes venu avec des invités. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Emmanuel.
Elle avait ouvert la première émission, elle va ouvrir la deuxième si elle arrive parce qu'elle est un petit peu en retard. C'est la présidente de l'UFISC, forcément elle a des milliards de choses à faire ici. De la Fédélima aussi, Stéphanie Thomas. Et puis Florian Auvinet du RIF qui lui est arrivé pour évoquer cette réunion qui vient d'avoir lieu au sujet du CNM, Centre National de la Musique, en cours de création. Bonsoir à vous Florian.
Alors Florian, le RIF, on va peut-être rappeler que c'est le réseau des musiques en Île-de-France. Tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce réseau. On va aborder cette question un peu épineuse aujourd'hui, mais qui a animé cette fin de journée à Pop Mind, celle de ce Centre National de la Musique. Alors comme ça peut paraître un petit peu barbare dit comme ça, mais c'est un des enjeux de la filière musicale dans les années à venir. Celle de ce centre qui a pour objectif à la base de structurer, de réunir les acteurs des musiques. Alors, pour parler d'une filière, peut-être expliquer ce que ça englobe. C'est aussi bien les salles de musique, les festivals, aussi bien les diffuseurs, les éditeurs, les tourneurs. Enfin, c'est assez large, finalement, cette filière musicale. Ce Centre National de la Musique devait se faire en concertation avec tous ces acteurs. Aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude des acteurs de cette filière quant à la manière dont ça se passe, puisque finalement, les débats ne sont pas si ouverts que ça. Et vous en avez longuement parlé tout à l'heure. Pouvez-nous vous parler des enjeux de ce Centre National de la Musique? Et on salue Stéphanie qui nous a rejoint à l'instant.
Bonsoir.
Bah écoute, t'as très bien résumé les choses. Effectivement, ce Centre National de la Musique, c'est un peu un serpent de mer dans notre secteur, parce que ça fait des années qu'on en parle, d'une sorte de maison commune pour rassembler, comme tu l'as très justement dit, tous les acteurs qui contribuent à un moment donné à faire vivre la musique en France, donc dans un secteur où on retrouve à la fois des acteurs qui sont dans l'industrie musicale, les producteurs de disques, les producteurs de tournées, mais on retrouve aussi des plus petits acteurs qui sont plutôt du monde associatif ou qui sont dans des choses beaucoup plus locales pour accueillir les gens qui pratiquent la musique, pour faire vivre aussi la musique sur tous les territoires au quotidien. Et voilà, et tout ce beau monde travaille dans ce secteur musical. Et à un moment donné, c'était comment le ministère souhaitait pouvoir se doter d'un outil pour rassembler un petit peu tous ces acteurs, pour en tout cas c'est ça qui nous est souvent présenté, pour rationaliser un peu les choses aussi. C'est un peu le propos, simplifier pour peut-être aussi porter un certain nombre de dispositifs pour venir aider ces acteurs-là dans toute leur diversité. Ça, c'est l'objectif initial. Et c'est vrai que nous, on va dire dans la dernière mouture de ce projet-là, qui a longtemps été remis au goût du jour dans des formes différentes, dans sa dernière mouture, nous, les acteurs qu'on représente, donc plutôt ces acteurs du monde associatif, ou en tout cas pas forcément les acteurs lucratifs et pas les acteurs de l'industrie musicale, pour le dire vite, on n'était pas, on n'a pas forcément été autour de la table dès le début pour discuter de ces enjeux-là. Et c'est ça qui nous inquiète, en fait, parce que à un moment donné, nous, on a réclamé dès le début l'idée d'avoir une grande concertation ouverte pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de cet outil-là. Parce que, en soi, un outil, pourquoi pas? Enfin, voilà, il faut pas, on n'est pas contre un outil, mais la vraie question, c'est pourquoi faire dans une politique publique? Quel objectif de politique publique on poursuit en France sur la musique?
C'est ça qui nous intéresse. Pour le dire clairement, votre inquiétude, c'est que la diversité qui est censée être représentée au sein de ce centre, finalement, soit mise de côté, et que les acteurs soient finalement toujours les mêmes, que le monde associatif soit un peu laissé de côté, ne participe pas aux discussions. C'est ça, cette inquiétude principale, d'être un peu laissé sur le côté, alors que c'est un des enjeux majeurs dans les années à venir pour cette filière musicale?
Bah c'est tout à fait ça, effectivement, qu'on soit laissé de côté et qu'on ne puisse pas faire valoir à un moment donné que ce à quoi contribuent au quotidien toutes ces initiatives qu'on représente, toutes ces salles de concert, toutes ces petites associations, petites ou plus grosses d'ailleurs, mais qui ne servent pas juste à repérer des artistes qui derrière vont faire carrière et vont faire les beaux jours des majors ou de tous ces acteurs-là, mais aussi font vivre des territoires, permettent à des personnes de s'exprimer artistiquement, de trouver un peu leur place dans la société. Et c'est ça aussi l'intérêt général que porte le secteur de la musique, en tout cas ce que nous on représente, et selon nous ça doit être un objectif majeur d'une politique publique, et le CNM doit y prendre sa part.
Quelque chose de très concret peut-être, Stéphanie, il y a une colère qui est en tout cas montée, c'est que vous étiez censé participer à une réunion auprès du ministère, réunion qui a été déplacée demain matin en plein Pop Mind, qui est quand même une rencontre des acteurs de cette filière, et du coup ça crée quand même un certain malaise, dans le sens où ça exclut davantage, en tout cas ça montre une certaine volonté de ne pas avoir tout le monde autour de la table. C'est un peu ça la colère qui est présente.
Alors, pas une volonté de pas avoir tout le monde autour de la table, puisqu'on a tous reçu, on n'a pas tous reçu, pour partie, nous avons reçu une invitation donc qui d'abord devait être vendredi après-midi, puis qui finalement est demain matin à 9h, effectivement. Donc c'est pas le but du jeu n'est pas de nous exclure, mais par contre, à un moment donné, on a effectivement, là je vais parler en tant que FISC, préparé un événement d'envergure européenne, où on reçoit plus de 350 acteurs du monde de la culture et d'ailleurs, auxquels on a convié le ministre, très expressément. On a même fait un courrier en lui demandant de venir assister notamment à ce fameux débat sur les politiques publiques pour la musique. Donc il ne peut pas nier ne pas l'avoir lu. On l'a envoyé au cabinet, on l'a envoyé à la direction générale de la création artistique, on l'a envoyé à la direction générale des médias et des industries créatives. Grosso modo, tout le monde savait qu'il y avait ce temps-là qui était en train de se tenir. Et le fait de positionner effectivement cette réunion de demain, donc c'est le lancement du CNM à un moment où ils savent très sciemment qu'un certain nombre d'acteurs sont réunis à Rouen sur un événement où l'on traite de droits humains fondamentaux. C'est quand même pas un petit sujet. Florian parlait d'intérêt général tout à l'heure, on est clairement là-dedans. C'est quand même pas anodin. Donc je pense que oui, c'est méprisant. C'est méprisant. Et puis on a, je pense, le droit d'être un tout petit poil énervé quand même que ça se passe dans ces conditions-là.
Alors on est diffusé sur des radios associatives, justement ça fait partie, ces radios associatives, de la filière. On n'y pense pas spontanément, peut-être tout le monde n'y pense pas, mais on diffuse, on est diffuseur de musique, on est prescripteur de découverte, enfin voilà, c'est, ça fait partie de cette filière-là également. Pour le dire concrètement, c'est aussi, nos radios doivent être représentées au même titre que des filières de salles de concerts, de musiques actuelles, de festivals, on l'a dit, d'éditeurs, de producteurs, et on a l'impression, c'est vrai par exemple, que certaines filières sont un peu oubliées et n'ont pas le même poids en tout cas dans les discussions. C'est un peu ça, ou...
Je crois qu'on est même plus sur une notion de filière dans cette histoire de CNM. Pour preuve, vos deux fédérations nationales, donc la Ferrarock et la Fédération des Radio Campus, font partie, en tout cas travaillent avec nous depuis presque 2 ans maintenant. Quand je dis avec nous, c'est-à-dire avec tout un tas d'autres fédérations musique et de réseaux territoriaux musique, justement parce que ce qui nous rassemble, ce qui fait commun à toutes ces fédérations-là, c'est pas une esthétique ou une filière particulière, c'est bien la singularité de nos adhérents qui se situent tous dans l'économie sociale et solidaire, qui sont majoritairement des associations, et c'est cette singularité-là qui fait que à un moment donné, tous ensemble, on peut porter un discours commun. Après, que les radios soient plus ou moins représentées, que les salles de spectacle, de concert soient plus ou moins représentées, ça va s'ajuster dans un deuxième temps, mais je pense que le combat qu'on a à mener, il est vraiment, vraiment plus à ce niveau-là, au niveau de revendiquer notre capacité en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire à exister dans un monde qui ne peut pas être tout économique ou juste tout public.
Justement, quelle est la vision que vous aimeriez en tout cas représenter? Parce qu'il peut y avoir plusieurs visions finalement. Il peut y avoir une vision plus financière, une vision plus culturelle, une vision plus solidaire. Quel est, vous, votre souhait en tout cas à travers votre participation et votre envie quand même de défendre vos aspects de la filière? Quelles sont vos envies pour terminer?
Je crois que c'est un peu ce que qu'on formule ici à PopMind pendant ces 3 jours, et par exemple les droits culturels me paraissent être quelque chose de très intéressant, parce qu'ils nous permettent en fait de dépasser aussi des enjeux catégoriels à un moment donné, voilà, parce qu'une politique publique de la musique, elle peut poursuivre plusieurs objectifs, elle peut, voilà, et c'est ça, nous, la question qu'on pose, c'est-à-dire débattons des objectifs que l'on poursuit. Est-ce que le but est de développer une filière économique pour qu'elle soit la plus forte possible, par exemple à l'export, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est de permettre à travers la musique, l'expression des personnes, le renforcement de leur capacité à être acteur de leur territoire, de la vie culturelle sur leur territoire, à s'émanciper, etc. C'est ce qui est, toutes les notions qui sont un peu contenues dans les droits culturels. Et donc nous, c'est plutôt cette vision-là de la musique qu'on défend. En tout cas, c'est ce que nos lieux travaillent tous les jours, et les structures qu'on représente mènent tous les jours dans leur travail.
Alors effectivement, on a beaucoup parlé durant ces 2 jours d'intérêt général, de droits culturels, de ce dont on vient de parler à l'instant. Pour peut-être que ça parle un petit peu aux gens qui sont en train de nous écouter, qui sont peut-être pas au courant des bagarres au sein de cette filière des musiques. Alors j'emploie le mot bagarre, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de confrontation assez forte quand même.
On peut dire lutte, je pense, à un moment.
On peut le dire. Quel est l'impact possible pour ceux qui nous écoutent, le fait que ce Centre National de la Musique prenne une orientation particulière et peut-être oublie ce dont on est en train de parler ici depuis 2 jours, c'est-à-dire les droits culturels et l'intérêt commun?
Pour être très concret, on a des nous, depuis plusieurs mois voire quelques années, on constate par exemple en Île-de-France la disparition, la mise à mal très importante de tout un tissu d'acteurs, de MJC, d'associations, voire même aussi de structures publiques qui ont été développées par des municipalités, des studios de répétition par exemple, ou des lieux à un moment donné où tout un chacun pouvait venir jouer, rencontrer des artistes, répéter, etc. Et ça c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'une politique publique, qu'elle soit nationale ou territoriale, ambitieuse, avec éventuellement l'outil d'un CNM, mais en tout cas permette de maintenir ce maillage, de le renforcer et de permettre à tout un chacun de vivre une aventure musicale et artistique près de chez lui.
Et donc du local et pas une centralisation finalement des acteurs. aussi à se baser sur ce tissu local.
Oui, entre autres, même si c'est pas du tout enfin manichéen et que mais en tout cas ça passe par là aussi effectivement.
Bon, ça veut dire quoi juste pour terminer, c'est l'heure de la mobilisation générale ou quoi?
En tout cas, on est en train d'essayer de se mobiliser collectivement, ouais. Ça reste pas forcément évident, mais je pense qu'il y a tout un tas de points sur lesquels on est extrêmement d'accord et il faut garder espoir, et puis c'est un petit peu le but de PopMind aussi, ces trois jours là c'est pour se redonner espoir et puis peut-être renforcer nos capacités à agir en les décalant, en les pensant autrement, en s'appuyant sur d'autres choses. Donc je pense qu'on sortira de ces trois jours beaucoup plus fort que quand on est rentré. En tout cas, je l'espère.
Merci à vous, Stéphanie Thomas, beaucoup. Florian Auvinet et Radio Phoenix. Nous programmons des artistes normands, forcément, dans cette émission, puisque nous sommes en Normandie, puisqu'évidemment, nos radios sont des radios de découverte musicale et notamment de découverte sur nos territoires respectifs. C'est d'ailleurs le cas de toutes les radios qui diffusent cette émission, puisque nous pourrions tous nous ranger sous ce label de radio de découverte musicale. Et donc avant de retrouver Radio Pulse, la radio d'Alençon et son invité pour parler de liberté dans l'espace public, il sera question d'art de la rue et de récupérer quelques espaces de liberté justement. Mais avant ça, voici donc un groupe havré, White Velvet, un petit peu de douceur. Extrait d'un vrai White Velvet, un groupe que nous a proposé la radio Westrack au Havre.
PopMind, les droits humains, une zone à défendre, du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.
Effectivement, à Rouen, en direct du 106, la salle de concert, dans le cadre de ce rendez-vous PopMind organisé par l'UFISC, collectif qui regroupe de nombreux acteurs de la culture qui s'interrogent avec ce rendez-vous sur la place de la culture, des acteurs de la culture en France et à un niveau européen dans la défense des droits humains fondamentaux au sens large, on va dire. Et aujourd'hui, parmi les multiples rendez-vous, il a été question de liberté dans l'espace public, d'un rétrécissement d'ailleurs de ces libertés et des moyens d'agir pour lutter contre cet abaissement des libertés. Une table ronde en deux parties. Une partie pour faire le point et une deuxième pour envisager des portes de sortie pour pouvoir prendre l'air. Oscar de la radio Pulse d'Alençon est allé jeter des yeux et des oreilles à ces tables rondes. Salut Oscar.
Salut, c'est très bien.
Et vous êtes venu avec une invitée, Valérie de Saint-Dos, membre de la commission pour la liberté de création.
Alors pour l'observatoire. Voilà,
pour l'observatoire.
La liberté de création. Et déjà, bonjour Valérie.
Bonjour.
Je te remercie donc d'être ici avec nous. En effet, c'était un double atelier donc autour de la liberté des espaces publics. Un premier donc ce matin qui était plus un état des lieux des différentes libertés qu'on avait perdues. On va rappeler quand même que récemment avec les différentes lois sécuritaires, nos libertés sur les espaces publics, on en a perdu pas mal. Mais cet après-midi, la question était surtout de comment savoir, vouloir et agir. Ça se terminait comme ça le sujet aujourd'hui, agir. Et on a pu pendant ces deux heures de rencontre en fait voir notamment avec vous et d'autres invités comment on pouvait agir quand on avait une perte de liberté en soi. Vous avez participé à la création de l'Observatoire de la liberté de création. C'était en 2002, si je me trompe pas. Et dans la foulée, vous avez écrit la charte manifeste de la liberté de création en 2003. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout d'abord d'où vient cette idée ?
Alors, nous sommes nombreux à l'Observatoire de la liberté de création qui, quand il s'est créé en 2002, réunissait un certain nombre d'organisations et d'individus. Il est important de préciser que c'est la Ligue des droits de l'homme qui a créé cet observatoire de la liberté de création. Bien, il s'est créé parce que on voyait arriver un certain nombre de censures artistiques. Alors, théoriquement, la censure était abolie en France, mais il y a beaucoup de manières de censurer une œuvre. Et ce qui se passait à l'époque, eh bien, c'était des déprogrammations, et puis c'était de la censure sous couvert, et une raison qui marche encore et toujours, par exemple, protection de la jeunesse. Le cas emblématique au début de l'Observatoire de la liberté de création, c'était un roman écrit à la première personne qui racontait l'histoire d'un pédophile qui s'appelait Rose Bonbon. Et c'était le ministère de l'Intérieur de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy, qui demandait son interdiction. Il a été débouté, mais face à des attaques multiples et des programmations multiples qui touchaient toutes les disciplines artistiques, eh bien, l'Observateur a écrit un manifeste qui est paru en février 2003 et dont le critère était celui de la fiction. C'est que une œuvre d'art et ce qui est dit dans une œuvre d'art ne peut pas être comparé à un propos politique, journalistique, scientifique. C'est que dans une fiction, eh bien, on peut avoir un héros meurtrier, un héros raciste. D'une part, ça ne reflète pas forcément les vues de l'auteur, et d'autre part, c'est pris comme une fiction, comme une œuvre d'art, et le spectateur peut se mettre à distance. Alors, ce qu'on voyait aussi venir à l'époque, c'était une censure économique. Et là, il en était question dans la précédente émission, c'est que la concentration, par exemple, dans le domaine du livre, de la musique, eh bien, et dans bien d'autres domaines, laissait de côté tout un pan de la création culturelle qui ne pouvait plus circuler en raison d'une censure économique.
Et justement, donc, en raison d'une certaine censure, on voit donc, dans l'espace public, notamment avec les arts de la rue, certains artistes ou certaines pièces se voir refuser certains endroits, certains lieux de création, ou alors imposer d'autres. Et la création d'un observatoire, eh bien, c'est un moyen justement de lutter contre eh bien, la perte de ses libertés. Il y avait notamment pendant eh bien, le débat d'aujourd'hui, c'était Cyrielle qui était ici eh bien, pour nous parler du projet de création d'un autre observatoire, celui de la répression de la vie associative. La vie associative, justement, eh bien, c'est là où en fait, elle agit sur les lieux publics et sur les lieux qui sont à nous et qui sont aussi justement les lieux de diffusion de la création artistique. C'est là aussi que vous avez aussi un rôle à jouer en fait, avec la sauvegarde de nos libertés.
Alors, j'ai également travaillé pour la Fédération des Arts de la Rue et je voudrais dire que là, les Arts de la Rue se sont heurtés à une diminution de leur liberté bien spécifique, qui a été au nom de la sécurité. Alors, entendons-nous bien, sur le mot sécurité, les acteurs des arts de la rue se sont toujours préoccupés de la sécurité de leur public, qui est que personne ne va prendre un coin de décor, par exemple, sur le coin de la figure, ou être victime d'un mouvement de foule. Mais là, avec les attentats, eh bien, on demandait aux organisateurs, aux villes, à ceux qui portaient les festivals, d'être garants de la sûreté, d'être garant qu'effectivement, il n'y aurait pas d'attentat. Donc, d'une part, l'État se défausse financièrement sur les collectivités et les organisateurs de festivals. D'autre part, foncièrement, au début des Arts de la Rue, il y a la volonté de proximité avec des habitants, il y a la gratuité, il y a l'échange, il y a précisément une occupation poétique, festive, imaginaire de l'espace public. Qu'est-ce qu'elle devient quand, par exemple, on met des barrières partout et que un habitant d'Aurillac, de Chalon, de Rouen ou Sotteville,
de vivacité,
de vivacité mais justement je sais que Vivacité n'a pas subi cette politique, doit passer 10 fois par jour des barrières et faire fouiller son sac.
Justement, voilà, c'est ce genre d'esprit là qui est censé qu'on doit sauvegarder en fait ici, et c'est justement quand on perd donc la perte de liberté de notre espace public, elle est due aussi justement à une conséquence, c'est le rétrécissement en fait de l'espace démocratique qui est aussi mis en place. Donc il y a aussi une espèce de maintien aussi des foules et un maintien des lieux. On pourrait imaginer qu'en fait l'espace public est comme une grande copropriété en quelque sorte.
Je voudrais raconter une anecdote que je trouve amusante. Quand il y avait Nuit debout à Paris, au bout de peut-être un mois ou deux, la maire de Paris a dit « on n'en peut plus de cette privatisation de la place de la République ». Or, pour le coup, c'était une appropriation de citoyens de la place de la République, alors que la privatisation de l'espace public pour des intérêts privés, eh bien, on la voit tous les jours. Notre espace est de moins en moins public. Et il y a socialement, et bien au-delà des professions artistiques, une demande d'espace public. Une demande d'agora, une demande de dialogue. Il y a eu des reportages là-dessus, dont le très beau reportage de Florence Ouna, les ronds-points et les gilets jaunes. Il y a une demande, effectivement, de pouvoir se parler, d'avoir des lieux où se parler. Et ça, effectivement, c'est en train d'être grignoté, et puis là, c'est même en train d'être assez violemment empêché, puisqu'on en est à l'interdiction de manifestation.
Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on a des voies des horizons un petit peu plus optimistes quand même par rapport à cet espace public qu'on tente de se réapproprier et quelquefois qu'on a du mal justement à se réapproprier en tant que citoyen?
Alors il y a des
ou artiste.
Il y a des voies de négociation. À Rouen, c'est ce qui s'est passé. Il y a des voies de négociation. Et puis, il y a aussi, surtout, le dialogue, et puisqu'on parle beaucoup de droits culturels ici, la capacité d'une population à les faire valoir et à dire précisément qu'elle veut aussi pouvoir circuler librement dans son festival. Et puis, il y a des mobilisations, alors des lieux de mobilisation. Il y a l'observatoire, il y a celui l'observatoire de la des restrictions à la vie associative dont vous avez parlé. Il y a des mobilisations, alors dont on considérait, c'était un peu une conclusion de la table ronde, qu'elles étaient très éparses, un petit peu trop éparpillées, mais il y a un combat fondamental sur la démocratie et sur nos libertés.
Bon, c'est le deuxième plateau où on conclut sur cette lutte à mener pour la démocratie et pour se réapproprier quelquefois des espaces. Merci à tous les deux, merci Oscar, Pulse, la radio, du côté d'Alençon, Valérie de Saint-Dôme, membre de l'Observatoire pour la liberté de création. Popmind à Rouen, 19-20, 21 mars 2019, au 106, la salle de concert. On poursuit notre compte-rendu, forcément un peu subjectif, de la journée qui vient de se dérouler ici. Conférence, atelier, palabre, en question durant 3 jours, les droits humains fondamentaux et donc nos libertés dans l'espace public, de créer, de nous mobiliser, d'investir sous différentes formes notre environnement public. Notre environnement public, ce n'est pas forcément la rue, le bitume, c'est aussi la campagne, la ruralité, avec les petits oiseaux et les champs glyphosatés. On va retrouver Radio Campus Rouen et on va retrouver Principe Actif avec Damien, Principe Actif, la radio dans l'heure.
Popmind, les droits humains, une zone à défendre, du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.
Territoires ruraux et jeunesse, agitons la culture. C'est un des sujets de réflexion cet après-midi dans le cadre de Popmind, ce rendez-vous pour se questionner, pour réfléchir au monde dans lequel nous vivons. Nous sommes avec Damien, donc de la radio Principe Actif dans l'heure. Bienvenue Damien, bonsoir.
Merci.
Votre invité, Sébastien Cornu, consultant culture et économie solidaire et administrateur bénévole de la gare de Coustelet.
Même membre fondateur, hein, si je ne m'abuse, Sébastien, bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Voilà, une histoire qui a 25 ans, on va y revenir dans quelques instants. Débat et atelier, temps de travail, on pourrait y mettre les termes que l'on veut, auxquels j'ai participé. Un podcast a été réalisé, donc va être produit et donc partageable. Je vous invite à y retourner pour avoir un petit peu plus... écho à ce que nous allons nous dire sur ce temps.
À retrouver sur les sites internet des différentes radios ouais. normandes et des radios campus qui participent à PopMind et des radios de la Ferraroc également.
Alors il n'était pas tout seul, hein, Sébastien Cornu, il y avait Alban Cogrel, Laure Hubert Rodier, nous avions un excusé, Gérard Peltre, mais qui a priori sera là demain. Nous avions Patricia Andriot, nous reviendrons sur elle tout à l'heure. Et puis, un moment fort de ce temps fut la présentation d'une initiative en Lettonie à travers la présence d'une personne investie dans une association qui a projeté, nous a partagé à travers la projection d'une vidéo l'initiative locale qu'elle mène. Sébastien, c'était quand même un temps intéressant, ce temps de projection et qui nous donnait un écho au-delà de nos frontières sur une initiative très humaine qui regroupe différentes générations et dans un territoire très reculé, hein, de mémoire 150 habitants dans la commune et surtout 40 personnes investies dans cet espace, une maison dans laquelle on mène des ateliers, on crée des objets, des œuvres, mais aussi où l'art est à part entière. Établi. Pardon Sébastien, qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous ressenti à travers cette vidéo? Et était-ce un bel exemple de ce qui peut se faire aussi chez nos voisins?
Le témoignage européen déjà, il est intéressant parce qu'il nous décale un petit peu de notre perception et de nos réalités franco-françaises. Et son illustration, en fait, elle vient montrer comment sur un village de 150 habitants très reculé, hein, elle témoignait d'une densité de population d'une personne pour 15 hectares. Donc on est dans des très faibles densités et c'est ce qui caractérise un petit peu le milieu rural. Elle montrait comment on peut faire du développement local, finalement, comment on peut construire à la fois de l'emploi, du vivre ensemble avec les personnes, à partir des ressources qui sont là. Donc ça demande d'aller voir ce que c'est ces ressources, que sont les personnes, et ce qu'elles portent comme savoir-faire, comme culture, finalement. Et puis d'essayer de développer une activité économique autour de ces savoir-faire, et autour de, elle parlait de la paille, hein, qui est en abondance dans le coin, elle parlait aussi des traditions de son histoire du territoire, et qui inspire un petit peu ce développement-là. Donc c'est un peu aussi des façons de présenter des utopies, des parcours qui sont un peu utopiques et comment ils peuvent inspirer ce qu'on peut faire ici en France.
C'était intéressant, en tout cas. Sur votre parcours, votre histoire, vous Sébastien, il y a cette création de structures, de lieux. Il y a 25 ans de cela, vous en êtes le fondateur ou l'un des fondateurs. Vous en êtes aujourd'hui membre administrateur bénévole. Elle a grandi, elle a vécu beaucoup de situations, elle a croisé beaucoup de politiques sociales, culturelles. Cette association, elle existe toujours. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que vous pouvez nous dire ce parcours, cette histoire de cette structure et de vous à travers?
Bon, la gare, c'est un projet éducation populaire et musique actuelle, donc qui représente une partie assez importante quand même des initiatives, des projets de lieux de musique actuelle, et pas que musique actuelle, on va dire, notamment dans les territoires ruraux. Et on pense aussi aux MJC, qui sont des acteurs qui intègrent la question de la jeunesse dans leur projet associatif. Et donc ce lieu en milieu rural, il a été construit autour de cette dynamique-là, jeunesse et culture, donc par les musiques actuelles. Ce que j'ai renvoyé sur l'atelier, c'est le regard sur l'évolution de l'éducation populaire, ou en tous les cas des cadres dans lesquels on essaye de faire survivre ces dynamiques-là. Et je témoignais du soutien fort qu'on pouvait avoir à un moment avec le ministère de la Jeunesse et des Sports quand il existait et qu'il était doté, avec des conseillers, des personnes au sein de ces ministères qui étaient des véritables conseillers pour le développement de nos initiatives localement. Initiative collective ou individuelle, quoi. Donc il y avait un système d'accompagnement et de repérage de ce qui fait un peu la richesse sur les territoires et d'accompagnement de ces dynamiques. On a bénéficié derrière de fonds d'initiatives jeunesse qui ont permis à des acteurs associatifs de faire ce travail d'accompagnement des jeunes et des initiatives. Et aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et des Sports est complètement démantelé. On est sur la cohésion sociale et la protection des populations. On n'a plus vraiment de conseillers territoriaux, pas de moyens. Les réseaux initiatives jeunesse se sont fait pas mal dézinguer. Et on se retrouve acteurs associatifs d'EducPop de plus en plus dans le giron de l'éducation nationale, ou en tous les cas d'être en interlocution avec les établissements, d'essayer de rentrer dans les établissements. Et donc dans une marge un peu éducative, voire à essayer de à contribuer à qui les décrocheurs, qui la responsabilité, les mesures de responsabilité pour des jeunes qui sont en difficulté. Donc on se retrouve quand même confronté aux difficultés que croisent ces jeunes, sans avoir en ayant de moins en moins d'outils, de réseaux, de capacités de faire ensemble et d'accompagner ces initiatives. Donc ce constat-là, il nourrit aussi, mais c'est pas la base du tout du projet, il nourrit une démarche dont on a parlé sur l'atelier, qui est le projet Agiter, qui est un projet pluripartenarial avec dont l'UFISC fait partie, avec une série de partenaires français, et qui vient observer et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la façon d'accueillir les jeunes et leurs initiatives sur les territoires. Alors on est sur les jeunes adultes, 18-30 ans on va dire, et on s'interroge sur comment les acteurs artistiques et culturels participent de cet accueil et de cette promotion, accompagnement des initiatives pour qu'elles puissent exister en milieu rural.
C'est-à-dire juste qu'on s'attaque à l'abandon de milieu rural des politiques un peu.
Alors, l'hypothèse de départ, c'est de le milieu rural. Bon, surtout en ce moment là, on a plein de travaux sur les territoires, métropoles, etc. Et donc il y a cet enjeu un peu de concurrence, le rural, l'urbain. Mmh. On essaye un petit peu de gommer ces frontières là, ces catégories, d'enlever l'image d'épinal qu'on peut avoir du monde rural avec le retour aux sources où tout était très bien, parfait. Et notre hypothèse de départ, c'est de dire on ne fait pas assez système sur les territoires ruraux, entre les institutions, les politiques et les acteurs associatifs, pour être en bienveillance et en accompagnement des initiatives. Et donc on essaye de voir ce qui existe un petit peu. Donc l'objet de l'étude vise à faire une petite enquête où les acteurs, les membres des fédérations seront sollicités pour voir la place des jeunes adultes dans leurs projets, dans leur dynamique, dans leur développement. Et en quoi ils contribuent éventuellement à l'accompagnement de projets qui ne sont pas que artistiques.
D'ailleurs, le relever, mais aussi après essayer d'établir un réseau. C'était justement Patricia Andriot, on rappelle, coordinatrice du réseau rural français, copiloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, entre autres, qui relevait un petit peu la chose et qui disait que, de manière anecdotique, et je la citerai, c'était pour aussi mettre les gens en réseau et prouver que lui avait peut-être pas inventé l'eau chaude et lui non plus. Et voilà, peut-être partager au contraire les pratiques et les savoirs pour faire écho. On l'a bien compris, c'est un dense sujet que ce projet Agiter. On vous invite à vous renseigner sur les internets qui correspondent. Moi, Sébastien, j'avais envie quand même de relever deux, trois anecdotes dans vos propos. J'ai relevé, par exemple, le fait qu'à un moment donné, vous donniez cette anecdote des nouveaux habitants dans les communes, les petites communes, les espaces, les territoires plus restreints. D'ailleurs, une personne a demandé à un moment donné, quelle serait, vous, votre définition des territoires ruraux? On a essayé, tant bien que mal, vous avez plutôt bien réagi en expliquant que des communes de moins de 5000 habitants, des toutes petites bourgades, des territoires reculés. Et donc, était relevé le fait que, j'en étais où ? On était sur cet
vous
exemple
dans votre question,
des nouveaux habitants, l'accueil des nouveaux habitants, alors que qu'est-ce qu'on fait des habitants en vrai qui sont déjà existants ? Il y avait aussi cet épanouissement local que des jeunes partaient, puis un jour revenaient parce qu'on nourrissait cette histoire, ce devoir de
mémoire.
C'est la
dernière question, parce que là...
Oui, il y en a deux en une en plus.
Si toutes ces questions-là durent 10 minutes comme celle-là...
Non, il m'a fallu retrouver le fil de l'histoire. Qu'est-ce que vous auriez à ajouter sur ces aspects-là ?
Les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes en milieu rural, elles sont renforcées sur les questions de transport, mobilité. Donc ça veut dire qu'on n'accède pas aux services, etc. Elles sont renforcées sur les histoires d'accès au logement. Les dispositifs HLM, etc. n'existent pas en milieu rural. Et il y a des territoires où tout l'immobilier est déjà occupé, voire très cher, bien qu'on soit en campagne. Les histoires de formation et tout ça font que finalement on a du mal à jouer, nous, sur ces enjeux de système. Et on essaye du coup de construire des réponses avec ces jeunes-là, si possible. En tous les cas, d'essayer de les envisager. Alors, ça demande à faire réseau avec les différents acteurs qui sont en interlocution avec ces jeunes-là. Et c'est un processus qui est relativement long, mais les politiques, petit à petit, voient la pertinence de faire système autour de ces dynamiques. Un élément que je voudrais souligner, c'est que on se soucie, une des questions qui était posée, c'est comment vous faites-vous pour sortir les jeunes des tablettes, par exemple? Alors bon, les jeunes ont leur pratique, on a conseillé d'aller s'intéresser aux pratiques des jeunes. Et ça nous renvoie finalement, je boucle la boucle, hein, ça nous renvoie à nos pratiques, à nous quand on était jeunes. On a été jeunes, si on porte des... à peu près tous hein, dans l'assistance, a été jeune. Et on a été porteurs finalement dans notre jeunesse de initiatives, de projets. Et on a réussi à trouver un écho si on a réussi à les mener. Quelque part, on voulait transmettre un peu la pierre. Hein, et à ce truc-là, de dire est-ce qu'on va construire les conditions favorables. Et deuxième élément, c'est que c'est eux qui vont inventer quand même nos pratiques. On ne connaît pas leurs pratiques culturelles d'aujourd'hui, on les connaît très très peu du bout des doigts, de ce qu'on peut en observer de loin, on les interroge assez peu sur leur leur réalité, elles sont assez peu prises en compte dans nos structures, dans nos projets. Ces questions-là, elles peuvent être aussi prises dans le sens de ben, quel est votre regard sur les conditions environnementales, de travail, d'économie, de logement, de mobilité. Et nos modèles de logement et de mobilité aujourd'hui doivent être réinterrogés avec eux. Et quand ils nous parlent très facilement de société décarbonée et d'habitat léger, quoi. Donc on ouvre un petit peu des champs sur lesquels on est un peu tous ignorants. Donc voilà, écoutons-les et relevons ces enjeux avec le projet Agiter.
On a encore beaucoup à apprendre et on attend que la jeunesse sorte du bois et on va l'aider à sortir du bois pour pouvoir construire des projets en milieu rural. Merci Damien Quéverdo, principe actif dans l'heure. Sébastien Cornu, merci à vous. Et on continue de profiter de cette audience sur les radios normandes et nationales avec les deux réseaux Campus France et Ferrar Rock pour vous faire découvrir des artistes normands. Après We Hate You, Please Die de Rouen, Michael Muckle, moitié de Caen, moitié d'Alençon et White Velvet du Havre. Voici les Hébroïciens proches de la radio principe actif, Bafang. Hébreu-Sien. On retrouve notre compte rendu non exhaustif des rencontres qui ont lieu en ce moment à Rouen dans le cadre de l'événement PopMind avec un des sujets abordés aujourd'hui, avec de nombreux sujets abordés aujourd'hui puisqu'il a fréquenté de nombreuses réunions, conférences, ateliers, palabres. Il s'agit de Seb de la radio Canet 666. On va le rejoindre.
PopMind, les droits humains, une zone à défendre du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.
Seb de 666, salut.
Salut.
Seb, donc petite balade dans quelques conférences et ateliers que vous avez pu fréquenter,
ouais,
cet
j'ai
après-midi.
Un peu fait l'abeille aujourd'hui en essayant de rester bien alerte sur, pour pouvoir vous faire un petit compte-rendu. Organisation collective du travail, est-ce que ça a un appui aux droits des personnes? Et après, manger, je suis allé me balader, c'était du côté des libertés, émancipation et solidarité dans l'espace numérique, quelles alternatives pour les coopérations citoyennes.
Alors justement, on parle un peu de coopération dans ces deux rendez-vous. J'ai l'impression
exactement.
Que ça vous intéresse, la coopération, Seb.
Alors, c'est surtout la refaçon de penser le travail, les outils à mettre en œuvre. Donc là, il y avait les deux.
Est-ce que vous pouvez faire peut-être une synthèse des deux, quelque part, ou c'est...
Alors, une synthèse des deux, je ne sais pas si c'est possible, hein, parce que comme ça a été évoqué lors du palabre et lors de la conférence sur les outils à mettre à disposition, il y a quand même une mentalité à changer. Alors, dans l'organisation du travail, de façon collective, ça commence d'abord par une prise de conscience du projet global, de la structure quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise ou une association.
Quand on travaille dans sa structure, quand on la porte,
les deux justement, parce D'accord. que l'un ne peut pas se faire sans l'autre. C'est-à-dire que si l'impulsion vient uniquement de ceux qui produisent, ceux qui agissent et de pas ceux qui décident, ça ne peut pas marcher. Et de la même manière, si il y a juste une décision de dire ouais, allez, on change, mais que ceux qui agissent ne souhaitent pas changer parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte.
Il faut que tout le monde s'empare du projet.
Il faut que tout le monde s'empare du projet, et donc du coup, ça commence par mettre à plat vers où on va. C'est quoi le cap, c'est quoi la vision, comment est-ce qu'on veut y aller, comment est-ce qu'on répartit, quelles sont les forces de travail de chacun, pas forcément la valeur, mais plutôt la force de travail de chacun, en quoi on est bon, qu'est-ce qu'on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut développer. Comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en musique? Et ensuite, on l'écrit clairement et on donne ensuite un cadre à ça, et surtout, on discute. On
parle de la fameuse horizontalisation.
Exactement. Et ce qui est très important, c'est, au-delà de... une fois que c'est mis en musique, il faut faire des points assez régulièrement pour être sûr que le cap tient toujours bon et que les gens y trouvent toujours leur compte. C'est très intéressant. Et il y a eu plusieurs intervenants qui tentent justement pas de révolutionner les choses. Je pense notamment à Élise Jamais qui m'expliquait que l'idée, c'est dans son travail, donc elle est coordinatrice au Secrateb, donc c'est qui est un groupement d'employeurs. Donc en gros, c'est des acteurs de la culture qui se mettent ensemble parce qu'ils ont parfois des besoins ponctuels sur certaines missions. Et pour pouvoir mutualiser leurs besoins. Donc elle est coordinatrice de toute cette structure. Et ce qu'elle me disait, c'est que cette réorganisation du travail, elle y était très sensible, mais elle n'allait pas l'imposer, en fait. Elle attend que les gens viennent demander une prestation ou justement ont un besoin, ils viennent l'exprimer.
Il faut qu'il y ait une prise de conscience d'abord.
Et après, elle dit, moi, je pourrais le faire comme ça. Et après, tu vois, hop, hop, hop. Et elle laisse diffuser la chose.
Donc, on peut être accompagné pour ça.
Exactement,
quoi,
voilà. Et c'est ça qui était très intéressant. Et pour faire le lien justement après avec ce qui était au niveau des libertés, de l'émancipation et quelles alternatives pour les coopérations citoyennes, là, on est plus resté sur l'idée d'outils. C'est quels outils on met en place. Et l'idée, c'est des termes qui sont revenus assez régulièrement autour de ce PopMind assez souvent, c'est comment est-ce qu'on se désolidarise des grands groupes, alors soit des grands acteurs, soit des géants de l'Internet. Donc là, on était vraiment avec des gens, notamment... donc je pense à Guillaume Lechevin, j'espère que je n'écorche pas son nom, ou Lechevin, je ne sais pas, qui est directeur du Jardin Moderne à Rennes, qui est une structure qui permet de faire de l'enregistrement studio, de faire des répétitions, enfin qui accorde tous ses besoins autour de la création musicale, et qui a décidé de le faire uniquement avec des logiciels libres et des solutions open source. Il explique son parcours, d'où c'était venu, les vertus que cela avait.
Alors ça aussi, comme le fonctionnement d'une entreprise ou d'une association, enfin d'une entreprise humaine, on va dire, c'est compliqué de changer le mode de travail, comme de changer des outils sur lesquels on est nombreux quelquefois à travailler, qui font référence au GAFA notamment, pour passer à du libre par exemple, quelquefois le cheminement, il faut qu'il y ait un cheminement justement.
Oui, alors ça dépend.
c'est justement ce... Alors, on est en Normandie, on va dire et oui et non. Et il y avait les gars de Framasoft qui étaient là, Pierre-Yves Gosset et Angie, qui nous ont présenté eux leur structure, qui est une, enfin qui se, une association loi 1901, qui œuvre beaucoup justement à la promotion des logiciels libres et qui s'était fait connaître il y a quelques années avec une grande opération dégooglisons Internet. Donc ils proposent au sein de leur association des outils alternatifs pour substituer les géants d'Internet et surtout pour faire réfléchir autour de la donnée personnelle ou la donnée produite avec les outils des géants du numérique. C'est certes des outils gratuits, mais rien n'est gratuit. Et en fait, derrière, il y a une notion de données récoltées et données revendues à des fins publicitaires. Donc, pour revenir sur la notion des logiciels libres, ce que disait Guillaume, c'est que au sein d'une structure, c'est une décision qui se prend de manière encore une fois collégiale. On en discute. Est-ce qu'on est capable de le faire? Et on se rend assez vite compte qu'aujourd'hui, on fait quasiment tout à partir d'un navigateur web. On va lire ses mails sur le web. Avec le navigateur, on va sur les sites, bien sûr, on va travailler sur des outils collaboratifs type traitement de texte ou même Tableur, mais sur des plateformes collaboratives. Et ça, il y a des alternatives qui existent. Il suffit de les mettre en œuvre. Et tout comme le support donc de ce navigateur, eh bien, ce qu'il le porte, c'est un peu technique, mais voilà, on n'a pas besoin forcément d'un système venu du géant Microsoft. On peut le faire sur des systèmes alternatifs qui sont aujourd'hui vraiment pensés vers l'utilisateur et pour travailler, pour abstraire le côté technique que l'open source a encore aujourd'hui comme étiquette, alors que pas vraiment en fait. Il y a une implication, il y a une action militante, certes, mais l'aisance de l'outil. Comme il le disait, ça marche tout aussi bien, et du coup, ça ne marche pas tout aussi bien. C'est-à-dire qu'il y a des plantages tout pareils. On en est arrivé à un même niveau de disponibilité et d'aisance d'utilisation de cet outil. Il faut juste avoir cette action militante, cette envie
Allez,
de
donc,
changer.
Allez, sur Framasoft, c'est ce qu'on peut conseiller à tout le monde. Merci Seb de Radio 666, du côté de Caen, en direct ou en différé sur les radios de la Ferraroc ou de Campus France, mais aussi des radios normandes réunies pour vous proposer un retour sur cet événement Popmind ici à Rouen 106, la salle de concert où se déroulent les différents débats, ateliers, conférences sur les droits fondamentaux à défendre, par le biais notamment de la culture et des acteurs de la culture. Avec une palabre de l'espagnol palabra par exemple qui veut dire parole hein, j'en profite pour réviser mon espagnol et une discussion à bâton rompu sur l'organisation collective du travail, ça c'est ce dont nous venons de parler avec Radio 666 donc on va se retrouver, on est là maintenant à quelques encablures des européennes et des municipales qui arrivent également à un an des élections municipales. On peut peut-être d'ailleurs espérer que 2020 soit celle de la féminisation hein, de la vie politique dans nos communes. Mais j'essaie de faire une transition. Effectivement, on a parlé égalité homme-femme aujourd'hui, femme-homme aujourd'hui dans le cadre de Popmind. Nous allons évoquer cette rencontre avec Alicia de Radio Campus Rouen.
Popmind. Les droits humains, une zone à défendre. Du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.
Eh ben, Jérémy, Alicia, Radio Campus Rouen, vous avez participé à cette table ronde intitulée « Égalité femmes-hommes, espace public et pratique collective ». Bonsoir Alicia.
Bonsoir.
Votre invitée, vous nous l'a présentée, j'avais dit que je la présenterais, mais en fait, j'ai pas eu le temps de regarder qui vous alliez amener. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots, c'est possible ou pas? Je crois que vous êtes sur Internet, c'est ça?
C'est ça.
On peut vous retrouver sur Internet.
Alors, je suis venue avec Marie Bongard, qui est donc, comme tu t'es présentée, une Instagrammeuse bénévole. Alors, c'est pas du tout ton métier principal, évidemment, mais tu as décidé de t'engager dans cette cause d'égalité homme-femme sur le magnifique réseau social qu'est Instagram, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça, oui. Instagrammeuse bénévole, puisque je ne pose pas en maillot de bain avec des produits sponsorisés.
Et justement, on va en parler, mais avant, on va revenir un petit peu sur cette conférence, donc égalité femmes-hommes, comme on disait, c'est très important, le femme est avant l'homme.
Oui, qu'on change les choses.
Et pour délimiter un petit peu cette conférence, parce que comme on le disait, le sujet est extrêmement vaste, espace public et pratique collective. Alors, pour rebondir sur espace public, alors la conférence a commencé par l'intervention de Thomas Urbi, qui nous expliquait la place de la femme dans la ville, et il a parlé de ville faite pour et par les hommes. Et est-ce que justement tu peux rebondir là-dessus, et est-ce que pour toi à quelles inégalités il fait référence?
C'est une grande question aussi, ça, je pense. Un truc tout particulier, la place des femmes dans les rues. Souvent, elles sont jamais au milieu du trottoir, ou elles sont souvent collées contre les murs. Elles occupent pas l'espace pleinement, et elles y passent dans cet espace. Elles s'y arrêtent rarement. Si on est autour sur une place publique, les femmes, en fait, elles restent pas. Elles traversent cette place publique. Les hommes, ils habitent sur cette place publique en général.
Et ça traduit pour toi une insécurité?
Bah alors, en pleine journée, non. Je pense que ça, c'est des conditionnements qui sont générés depuis la petite enfance. Après, là, si on part sur le grand débat de rentrer d'une soirée, ou rentrer un petit peu tard, ou rentrer quand il fait nuit, c'est-à-dire l'hiver à partir de 17h30, là, c'est de l'insécurité. Enfin, oui, je pense qu'on a peur, les femmes ont peur en général, ou ont au moins ont eu des sentiments de peur en rentrant de nuit, ouais, ça c'est sûr.
Alors, comme tu le disais, c'est un sujet assez vaste, donc on va pas partir là-dessus parce qu'on a que 10 minutes. Et donc, dans espace public et pratique collective, on va parler pratique collective. On a parlé éducation nationale pendant cette conférence, et tu as parlé pendant ton intervention de non-éducation sexuelle. Est-ce que tu peux t'étendre? Parce que là, tu peux en parler.
Ah là, je peux en parler pendant une demi-heure si tu veux. En fait, l'éducation sexuelle qui a été mise en place normalement dans les collèges, les lycées depuis une quarantaine d'années, en fait elle est quasiment inexistante parce qu'elle n'est pas obligatoire, et en fait souvent dans les structures d'emploi du temps scolaire ou dans les structures de programmes scolaires, les professeurs n'ont pas souvent du temps déjà pour faire leur programme, souvent c'est cette partie-là qu'ils omettent dans leur programme. Le problème, c'est qu'on a des jeunes qui sont en train de se construire sexuellement et qui forment leur éducation sexuelle régulièrement sur des sites pornographiques, sur Internet, justement, sur un espace public qui est Internet, avec des images pornographiques la plupart du temps. Et si on n'a pas cette éducation sexuelle qui est indispensable dans les collèges, dans les lycées, on se retrouve avec des grosses lacunes, avec des jeunes qui ont des grosses lacunes sur l'éducation sexuelle.
Et des grosses lacunes, par exemple, c'est-à-dire des hommes, donc, comme tu le disais, qui imaginent que le porno, c'est la vie réelle.
Oui, le pornographique, les comportements pornographiques, comportements envers les femmes dans le cinéma pornographique, dans les films pornographiques, qui est quand même pas très bien pour la femme en général, même s'il y a de la pornographie féministe qui est en train de se mettre en place maintenant et qui est assez, assez intéressante. Mais effectivement, ça se crée comme ça. Autre chose qui est très important, c'est que par exemple, le clitoris, l'organe sexuel féminin par excellence, qui permet le plaisir féminin, est absent dans la majorité des manuels scolaires, et que la plupart des femmes, 80% des jeunes filles, ne savent pas dessiner leur sexe, ne savent pas qu'elles ont un clitoris.
Donc il y a un tabou là-dessus, donc sur le plaisir féminin. Alors on va pas s'étendre de l'origine de ce tabou, hein, on a chacun nos avis là-dessus.
Une dernière question, Alicia, je suis désolée, ça passe très vite.
C'est dingue, ce sujet est passionnant.
Mais ouais.
On va terminer sur Instagram, je t'en parlais un petit peu en off. Pourquoi Instagram est justement une espèce de promotion à cette sexualisation de la femme forcée? C'est-à-dire, on en parlait un petit peu dans une autre interview, c'est-à-dire la femme peut très bien accepter d'être sexy, d'avoir des formes et de les mettre en valeur, mais pas que ça. Et hélas, Instagram est le réseau social de justement cette instrumentalisation du corps de la femme. toi, par exemple, grâce à ton compte, t'essayes de le changer. Et est-ce que tu penses que c'est en marche ou ça va mettre du temps?
Bon, alors, on est quand même sur des standards de réseaux sociaux avec Kim Kardashian qui pose en string avec une bouteille de vitamines ou un truc comme ça. Elle est sponsorisée, elle gagne 500 000 dollars pour ce poste. Donc, il y a quand même un long trajet encore à faire. Mais là, on est quand même sur une mouvance des comptes féministes ou en tout cas des comptes qui défendent l'égalité entre les femmes et les hommes qui éduque sexuellement les utilisateurs, qui quand même, je pense qu'on est vraiment, on est en train de créer quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Un vrai réseau, une vraie communauté qui est hyper importante à développer.
Merci à toutes les deux, Alicia, Radio Campus Rouen et Marie Bonga, qu'on peut retrouver effectivement sur Une Sacrée Paire d'Auvers, c'est votre page Instagram, c'est ça ?
C'est mon podcast, Une Sacrée Paire d'Auvers.
C'est le podcast, ouais. Donc si on veut en savoir plus, on peut aller fouiller sur Internet. Merci à toutes les deux.
Merci.
L'émission se termine. C'est la fin de cette émission retransmise en direct sur de nombreuses radios de la Ferraroc comme l'Écho des Garrigues à Montpellier, Radio Balade dans l'Aude, Equinox à Namur, Croc Radio à Vienne, mais aussi en différé à Limoges avec Bob FM, Canal B à Rennes, Radio Méga à Valence, Radio Active à Saint-Brieuc et Béton à Tours, les radios campus de Campus France, des radios que l'on salue évidemment. Un big up particulier à toutes les radios normandes qui se sont mobilisées pour vous faire vivre ce rendez-vous riche en réflexion. Un grand merci à l'UFISC également qui a organisé ce rendez-vous PopMind et merci de nous avoir laissé vivre notre vie et de nous avoir intégrés dans cette manifestation. PopMind, désormais rendez-vous à l'année prochaine, même si PopMind n'est pas encore tout à fait terminé ici à Rouen avec la plénière de conclusion notamment demain et encore quelques rendez-vous. Nous, avec les radios associatives de Campus de la Ferraroc et d'autres radios aussi, on se retrouve peut-être l'année prochaine avec PopMind ailleurs et sans doute toujours donc avec nos radios.